Bienvenue à l'émission Un jour à la fois en compagnie d'Isabelle et son équipe.
Bonjour à tous mes chers auditeurs, ici votre animatrice Isabelle. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont un mouvement international d'hommes et de femmes qui avaient un problème d'alcool. Non professionnels, ils s'autofinancent, ils sont multiraciaux, apolitiques et on les retrouve presque partout. Il n'y a aucune limite d'âge ni de niveau d'éducation requis. Tous ceux et celles qui veulent faire quelque chose à propos de leur problème d'alcool peuvent devenir membres. Alors, nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de cette fraternité. Notre invité vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement. Alors, aujourd'hui, nous avons Alain. Alain, c'est un homme mature. On va voir si la maturité de AA est arrivée aussi. Mais bon, devant moi, j'ai un homme mature et puis je suis bien heureuse d'avoir Alain pour partager aujourd'hui. Puis je vais le connaître en même temps que vous par son partage. Je vais apprendre sur lui. Et puis donc, je lui cède tout de suite la parole. À toi, Alain.
Salut, Alain, alcoolique anonyme. Je suis très content d'être ici aujourd'hui. Mais c'est la première fois que je vais partager à la radio, alors ça se peut que je sois un peu nerveux, mais c'est une belle expérience, puis de toute façon, ça fait partie des alcooliques anonymes, puis c'est l'endroit qui m'ont sauvé la vie. Alors, moi je suis, écoute, je sais jamais comment je vais commencer ça, mais aujourd'hui ça a l'air que ça va partir de même. Je suis le septième d'une famille de 12, une famille très dysfonctionnelle, où la boisson était omniprésente, et où mes frères aussi consommaient beaucoup de drogue. C'était vraiment une famille, comment on peut dire, une famille spéciale. Ça. Alors, j'ai vécu là-dedans, puis je me souviens qu'on est arrivé, on était parti de la Gaspésie, j'avais 7 ans. Puis, il me semble que Gaspésie, c'était un endroit extraordinaire, on jouait dans les champs, tu sais, les montagnes, les cours d'eau, la rivière, c'était formidable. Puis mon bon papa, qui était un grand alcoolique lui-même, mais qui s'ignorait, nous a fait déménager au centre-ville à Montréal, sur la rue Lagauchetière, le quartier le plus hot des années 63. C'est vrai, c'était vraiment hot dans ce coin-là. Là. Des batailles, j'avais jamais vu ça, des batailles, des gens qui buvaient à pleine rue, des chicanes, le chum de ma soeur qui veut se jeter en bas du troisième. C'est toutes les images que j'ai quand j'étais enfant. Puis les premières années à Montréal, mais j'étais abusé. Tu sais, comme bien d'autres enfants, les gars ou les filles, j'étais abusé beaucoup. Mais c'est ça. C'est peut-être ça qui m'a fait boire, qui a fait que je me suis gelé très tôt. Quand j'ai commencé à consommer, j'avais 12 ans, puis c'était les médicaments de mes frères. Les pilules qui laissaient traîner puis qui échappaient partout dans le salon. Fait que nous autres, on était curieux, on les ramassait, puis on essayait ça, puis j'ai senti que ça m'apaisait, tu sais. Je me sentais tout apaisé. Ça n'a pas duré longtemps, cet apaisement-là, par exemple. Alors là, j'ai fait... Écoute, moi, j'ai eu le rejet de mon père en plus. Mon père qui m'a rejeté, j'avais 9 ans. Ça a été une crise épouvantable. Je me souviens, ma sœur me contait ça dernièrement, que j'étais bleu, rouge, j'étais vraiment en crise existentielle, je dirais. Là. Puis c'est là, c'est drôle, c'est là que tout a commencé. Tout a basculé, là. J'ai commencé à faire les mauvais coups. J'ai commencé à voler des bonbons de panneur, mais ça, c'était rien, tu sais. On choisissait les meilleurs, quand même. Mais plus tard, tu sais, ça s'est développé, ce genre de petits vols-là, puis tout ça. Ce qui a fait que j'ai eu une vie, écoute, de consommation. De 12 ans aller jusqu'à 34 ans, j'ai consommé une pharmacie complète, quelques pharmacies de maison qu'on faisait aussi, les pharmacies des maisons privées. Là. J'ai fait bien des petits mauvais coups, mais c'était pas parce que je voulais le faire, c'est aussitôt que je consommais, ma vie se transformait. C'était comme si c'était un autre personnage. C'est comme si il y avait Alain qui était timide, renfermé, isolé, puis plein de peur. Mais celui qui consommait, il était plus brave. Lui, il faisait des conneries. Il faisait des bêtises, des petits vols, des affaires. Dans le fond, pour se faire remarquer, hein, à quelque part, là, c'était ça. Fait que j'ai fait toutes les écoles de réforme pour jeunesse. Mon Saint-Antoine, Bertolet, toutes ces affaires-là, j'ai tout fait ça. J'ai tout fait ces centres-là. Aujourd'hui, je suis un petit ange, là, comparé à ça, mais ça a changé, disons. Puis c'est ça, j'ai abouti dans les centres de jeunesse, le Mont-Saint-Antoine, mais ça n'a rien donné parce que j'étais trop malheureux. Mais tu sais, dans ce temps-là, on s'en rend pas compte, tu sais, on est tellement autosuffisant soi-même, tu sais, puis on pense que personne ne peut rien faire pour nous autres parce qu'on a été tellement bafoué et trompé déjà à la jeunesse. Fait que c'était dur pour moi de faire confiance à des adultes après, tu sais. Les gens avaient beau me donner des conseils, mais j'étais pas là. J'étais pas à l'écoute de ça. J'étais trop dans le déni et toutes ces choses-là. Mais c'est ça. Puis j'ai fait beaucoup de prison. Beaucoup de prison aussi. Je pense que j'ai fait à peu près tous les pénitenciers que tu peux trouver. Le Pen, de Claire, Chambault. J'ai pas l'air de ça quand tu me regardes, hein? La fille en avant de moi. Mais j'étais vraiment très perturbé par les consommations. J'ai fait des invasions de domicile, j'ai fait tout ça parce que c'est important, tu sais. C'est vraiment l'autre Alain qui habituellement n'aurait même pas volé une mouche. Tu sais, j'étais pas comme ça. Mais aussitôt que je consommais, on dirait qu'il y a un personnage qui embarquait qui faisait des mauvais coups à ma place. La consommation qui faisait faire ça quelque part. Fait que c'est ça, j'ai fait tout ce beau cheminement-là de peur, de crainte, de pas confiance en moi. Je doutais de tout. Tu sais, je doutais de tout. J'avais confiance en personne parce que j'avais été tellement trahi souvent. Puis, c'est ça. Fait que la prison... Puis, à quelque part, c'est drôle, je vais juste ouvrir une parenthèse, mais la prison m'a peut-être sauvé la vie à quelque part parce que je consommais moins. Tu sais, je consommais moins. Puis, ça me tenait plus tranquille. C'est bizarre, hein? J'étais plus tranquille. Je ne dis pas que je n'ai jamais consommé en prison. Je te mentirais. Oui, mais c'était moins. Tu sais, c'était moins pire. Fait que ça m'a comme ralenti. Puis, peut-être qu'inconsciemment, quand j'étais dehors, je cherchais encore cette espèce de sécurité, cet encadrement-là qui était à la prison, mais dans le fond, ça m'a sauvé pareil. Tu sais, c'est ça qui a fait que j'ai moins consommé, puis j'ai pu un jour m'en sortir comme vous voyez. Puis c'est ça, tu sais, ça a été une vie assez bizarre, assez hot. Moi, j'ai eu une vie d'errance. C'est drôle, hein? J'ai eu une vie d'errance. Très jeune, tu sais, suite au quand mon père m'a rejeté, là. J'ai fait comme une vie d'errant. J'irais dans les rues, j'irais partout. Puis ça a duré longtemps. Ça a duré jusqu'à l'enfance et l'adolescence, tu sais, à me chercher. Puis j'avais plein de problèmes. Là, puis mais tu sais, tu sais pas à qui en parler, tu sais pas à qui le dire. Tu connais rien, tu connais pas les A, tu connais pas des endroits. Surtout dans ces années-là, c'était plus tranquille, tu sais. Fait qu'il y avait moins peut-être de possibilités. Mais je sais que les A étaient déjà là. Puis c'est à travers le partage de mon frère Rénal. Là, je coupe un petit bout, mais je vais revenir. Mon frère Nage, je suis allé l'entendre partager. Il y a un petit peu plus de temps que moi dans les A. Puis, ça m'a fait réfléchir. Ça a fait comme... laisser là que je voyais que j'avais quelque chose qui fonctionnait pas. Tu sais, à travers ce qu'il me disait. Puis comme on vient de la même famille, alors on a vécu à peu près les mêmes affaires. Peut-être pas les abus pour lui. Mais c'est là que j'ai commencé à comprendre tranquillement. Tu vois, c'est ça qui m'a amené tranquillement. Pas tout de suite, là. Ça a pris peut-être 2-3 ans encore après. Tu sais, j'ai pas fini mon parcours. Mais toujours est-il qu'il y a eu déjà une petite ouverture, là. Puis, mon beau cheminement, j'ai terminé ça dans les piqueries. J'étais dans les piqueries, je le dis, mais ça fait tellement longtemps, il n'y a personne qui va m'arrêter aujourd'hui. ça fait 32 ans que je m'en de ça, t'sais. Mais j'ai abouti là-dedans. Et mon, ça, c'était l'enfer. Ça, c'était le début de la fin. Tu sais, la fin d'un début qui s'en venait, là. Tu sais, je voyais quelque chose qui se passait, là. Ah, je regardais tout ça autour de moi, puis c'est l'enfer, tu sais, c'est l'enfer que tu vois autour de toi. T'as pas besoin d'aller... L'enfer, c'est ça, je l'ai vécu sur Terre, tu sais, parmi ce monde-là, parmi la prison, et j'ai tellement eu peur dans les prisons. Mais toujours protégé, je sais pas comment ça se fait, j'ai toujours été protégé, tu sais, par Dieu. Je sais pas, moi, j'ai toujours eu la foi, puis c'est la foi de ma mère, tu sais. Ma mère, quand mon père cassait tout dans la maison, là, puis les meubles, les ameublements, ou le peu de meubles qu'on avait, là, ma mère nous emmenait dans la chambre, moi, puis mes 3 autres frères, les plus jeunes. Puis elle me faisait prier. Fait que ça a toujours resté, ça. Tu sais? Même quand j'étais gelé, si je trouvais le moyen de prier. Je sais pas si mes prières étaient ils ont dû être attendues à quelque part, parce qu'à un moment donné, j'ai décroché. Mais tout ça pour dire, la foi m'a sauvé aussi. Ça m'a aidé beaucoup. La foi de ma mère, puis sa façon de prier, qui était toute simple, puis elle dit, sois bon avec toi-même, puis alors, à un moment donné, tu vas finir par être bon avec les autres. Tu sais, elle dit, tout part de nous, hein? Tout part de nous, je le sais maintenant. Puis, c'est ça, les piqueries, mais là, j'ai descendu à 120 quelques livres. J'étais à 172, là. Mettez-moi 26 livres, j'étais pas gros, hein? Là, j'aurais dû en manger du chocolat pour m'en piffrer un petit peu, mais non. Hey, 126 livres, j'étais rendu là. Puis là, puis une journée, tu sais, les piqueries, on vit d'un autre monde, hein? C'était un monde parallèle. Puis quand j'arrivais à la maison, puis il y avait ma petite la fille à ma sœur qui restait juste à côté de chez ma mère. Puis une fois, elle me regarde, elle dit... Puis elle, je l'emmenais partout. Tu sais, j'allais chez mes payes pour aller du congrès. Je travaillais quand même, j'arrivais. Je l'emmenais avec moi chez ma paye pour aller du congrès. Puis elle était toute belle, elle faisait cette petite mignonne, tu sais. Puis on allait au restaurant, tu sais. Je la promenais, on avait du fun. Puis à un moment donné, elle est arrivée dans la cuisine, puis elle dit... Mon oncle Alain, elle dit, t'es plus comme avant. Juste ça, là. ça m'a sacré un coup. Tu sais, tu comprends? C'est comme des petites pointes de prise de conscience. Tu sais, quelqu'un, surtout un enfant, ça ne ment pas. Hein? Si un enfant, il t'aime. S'il t'aime pas, il t'aime pas. Mais on était très proches. Puis la manière qu'elle m'a dit ça, j'ai vu ça comme un, c'est vrai que je suis plus là. C'est vrai que je suis absent. Je suis pas là pour les gens que j'aime. Tu sais, j'étais rendu presque rien. Tu sais, j'étais rendu maigre. J'avais plus d'espoir, j'avais plus rien. Puis je passais, comme tu dis, ma vie en prison. Tu sais, rentrais, sortais. Fait que ça fait pas une vie très, très heureuse. Mais ma foi m'a quand même aidé à passer à travers ces périodes difficiles-là. C'est ça.
Alors, Alain, il nous a raconté une partie là, de son enfance. Déjà, un garçon de la Gaspésie. Et puis, moi, je connais bien ça. Je viens du Saguenay, moi. Ah. Puis, je connais bien ça, la vie dans les cours d'eau, dans la nature, près de tout, puis d'être téléporté en ville. Moi aussi, j'ai connu ça. Et puis, je comprends les difficultés de ce passage-là. Et puis, aussi, tu nous racontes donc la errance. Tu as erré. Alors, dès ton jeune âge, hein, parce que tu trouvais sûrement pas ta place non plus, nulle part où aller, donc tu vas n'importe où. Tu vas partout. Moi, ça, j'ai entendu ça. Je connais ce sentiment-là aussi. Puis, c'est on se sent perdu. Puis, t'as une grosse famille, 12 enfants. Fait que c'est sûr que ça a bien des influences. Et là, je vois que les influences n'ont pas été toujours bonnes. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que tu vas nous raconter davantage. Et la vie dans les piqueries, puis tout ça, wow! Tout un cheminement jusqu'à maintenant. Puis les enfants, la vérité d'un enfant. Alors, moi, déjà, je vois qu'il y a encore des choses à entendre. On va tout de suite aller à la pause, puis j'ai hâte de revenir à ton partage, Alain. À tout à l'heure.
Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les Alcooliques Anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les Alcooliques Anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les Alcooliques Anonymes, nous pouvons aider.
Vous écoutez l'émission « Un jour à la fois » en compagnie d'Isabelle et son équipe.
Bonjour chers auditeurs, nous sommes de retour à l'émission « Un jour à la fois » et cette fois-ci, on commence avec une lecture. Alors la lecture d'aujourd'hui sera « Les réflexions quotidiennes » à la date du 15 août. C'est la date de notre enregistrement aujourd'hui, alors pourquoi pas? Alors, qui n'a jamais blessé personne? Il y en a parmi nous qui avons par contre été confrontés à un tout autre obstacle. Nous prétendions obstinément qu'en buvant, nous n'avions jamais causé de tort à personne, si ce n'est à nous-mêmes. La 8e étape semblait tellement facile. J'ai identifié plusieurs personnes que j'avais lésées, mais elles n'étaient plus là. Pourtant, cette étape me mettait mal à l'aise et j'évitais les conversations sur ce sujet. Avec le temps, j'ai appris à m'interroger sur les étapes et sur les aspects de ma vie qui me mettaient mal à l'aise. En cherchant bien, j'ai découvert que j'avais beaucoup fait souffrir mes parents en m'isolant d'eux, que j'avais causé des soucis à mon employeur par mes absences, mes pertes de mémoire et mes humeurs, que j'avais fui mes amis sans explication. Face à ces torts bien réels, la 8e étape a revêtu un sens nouveau. Je ne me sens plus mal à l'aise, mais purifié et léger. Extrait du livre Réflexion quotidienne. Ouais, c'est disponible sur Internet, sur aa87.org. On peut aller lire la réflexion quotidienne à chaque jour. On l'a aussi, bien sûr, le livre. Donc, on va revenir tout de suite à notre invité, Alain. Alain avait fait le premier segment là, de son partage. Il était pas mal dans une vie qui semblait être un tournant entre l'errance, la prison. Oh, il travaillait, ce que j'ai pu comprendre. Mmh. Et puis, il nous a parlé de sa nièce. Puis ça, c'était important dans sa vie. Je pense qu'il était proche de sa nièce. Puis elle lui a fait un message là, comme quoi il avait bien changé. Puis ça l'a un peu frappé, ça, comme un premier petit éveil, j'ai l'impression. Alors, il va plutôt nous raconter par lui-même là, tout ce qui se passe dans sa vie. Là. Fait qu'on va aller vite retrouver Alain. À toi.
Mais merci. Caroline, c'est ma nièce en question, là, qui avait, mon Dieu, 4-5 ans à ce moment-là. Aujourd'hui, elle est dans la police. C'est une grande police, mais super belle blonde. Là. Une belle femme, là, c'est une vraie belle femme, puis elle a des petits-enfants, elle a des enfants, puis c'est merveilleux. Je suis content, tu sais, je suis content de voir qu'elle est heureuse, puis tout ça. Mais c'était une des premières qui m'a, tu sais, titillé pour me faire comprendre des choses. Là. Puis la deuxième fois, mais c'était avec ma mère. J'avais tenté de me couper des veines, mais comme j'étais bien gelé, tu sais, bien, j'étais pas là pantoute, là, j'avais pris un petit couteau à patate, mais il coupait pas. C'est pour ça que je suis là avec vous autres aujourd'hui. J'ai essayé, mon ami, il y a des marques. J'ai essayé, puis ça ne marchait pas. Je dis, ben voyons donc. Ça fait du coup, ma mère m'a vu, puis j'ai pleuré dans ses bras. Ça, ça a été un autre petit point. Aujourd'hui, je peux le voir avec du recul. Ma mère était très présente là-dedans. Puis j'ai pleuré dans ses bras, puis tout ça. Puis là, ils m'ont envoyé à l'hôpital parce que j'étais vraiment gelé, gazé, là, tu sais, dans les médicaments. Je prenais de tout, moi. Je prenais tout ce qui pouvait me geler. Je prenais tout ce qui pouvait me faire m'oublier, tu sais, dans ma vie d'errance, mais là, j'étais encore dans cette errance-là, encore. Mais là, ça a commencé à allumer tranquillement. Fait que ma mère, suite à ça, j'ai pleuré dans ses bras, puis elle pleurait avec moi, puis elle a appelé l'ambulance. Là, j'étais allé à l'hôpital, puis mais ils m'ont gelé encore. Je voulais qu'ils me passent un tube, j'avais plus de l'eau de Javel. Depuis ce temps-là, j'ai des blancs de mémoire. Donc, je fais de l'humour avec ça, parce qu'il faut en rire à un moment donné, tu sais. J'aurais pas dit ça il y a 30 ans, mais aujourd'hui, je peux le dire. Tu sais, ça... Ouais, en tout cas. Ah, vaut mieux en rire aujourd'hui que pleurer quand même. Ben, c'est ça, tu sais, puis ma mère, puis bon. Pis là, j'ai un de mes frères, moi, qui vendait de la drogue dans le temps, il n'y en vend plus. C'est un citoyen maintenant, comme moi. C'est pour dire comment on peut changer tant qu'on ne consomme pas, hein, ces choses changent. Puis il vendait beaucoup, puis j'avais volé son argent. J'avais volé son argent, mais c'était de l'argent du produit. J'ai jamais eu de... Moi, tu sais, ça m'a jamais fait de la peine d'avoir pris, là. Puis je suis parti à Québec avec ça, avec cet argent-là. J'ai fait une analyse bien vite, j'ai appelé un ami, puis je suis parti à Québec. Puis c'est là que ça s'est passé, le vrai... espèce de réveil, je dirais, le coup de grâce, là, le... Ah, Seigneur, j'étais à Québec. Puis à un moment donné, j'étais dans les motels, tu sais. Puis à un moment donné, je me suis mis à pleurer, tu sais. Je pleurais vraiment, là, tu sais. Quand tu dis que ton corps saute en l'air, quasiment, tu brailles, puis les épaules te sautent. J'ai pleuré énormément, puis je me suis rappelé à ce moment-là, j'étais dans le lit, les pattes croisées, puis je me suis rappelé tous les gens qui avaient essayé de m'aider. Tu sais, les Michel, le Palandelet, un autre, là, tu sais. Plein de gens, c'est drôle, je me suis rappelé de tous ces gens-là. Mais plus je pensais à eux, plus je pleurais. Tu comprends? Je pleurais à une vraie Madeleine, là, tu sais. Je pleurais, mais pleurais. Puis à un moment donné, je me suis levé. Puis, tu sais, dans les motels, il y a toujours des maudits miroirs partout, là. C'est pour les femmes. Pas pour nous, on se regarde pas. Puis à un moment donné, je me vois dans le miroir. Mais là, écoute, je te dirais pas que le bon Dieu a apparu dans le coin des murs, c'est pas vrai. Ce qui s'est passé, c'est plutôt à l'intérieur. Tu sais, j'ai senti comme une chaleur, puis en même temps, c'est comme si je me voyais pour la première fois. Tu sais, c'est comme si je voyais pour la première fois dans mes yeux cette souffrance-là que je transportais depuis des années. C'est bizarre, hein, que ça arrive comme ça. En tout cas, j'ai pleuré en tabarnak. Puis là, à ce moment-là, je me suis rappelé un ami qui avait passé par la maison du père, puis s'en est sorti, puis qui est devenu professeur. Tu sais, ça a toujours resté, ce gars-là. Ça fait longtemps que je l'avais rencontré. Puis je pensais souvent à lui, puis lui, il avait passé au travers de ça, tu sais, il consommait comme moi, il a passé au travers, professeur pour les gens, tu sais, les jeunes attardés, ça fait... mais vraiment un homme, puis ça a toujours resté ici, tu sais, ça a resté là. Puis cette journée-là, mais j'ai pensé à lui bien fort, puis j'étais à Québec encore, là. Mais là, comme je n'étais pas assez convaincu, je me suis levé, moi j'ai fait les bagages, mais j'ai arrêté au bar de l'hôtel, tu sais, le petit bar, là, un bar, il y a partout, hein. Puis là, je me suis saoulé, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis saoulé. J'étais malade. Tout ce que je me souviens, j'étais entré à la toilette, il faisait clair, quand je sortis, il faisait noir. Ça peut-tu te donner une idée combien de temps j'ai passé là? Je ne le sais pas. Mais ça a été ma dernière brosse. Ça a été la dernière brosse que j'ai prise. C'est là que j'ai décidé de revenir à Montréal puis d'aller frapper à la maison du père. Parce que j'avais tout perdu, j'avais plus rien. Parce qu'avant, je restais chez ma mère. En fait, tu sais, je ne voulais pas retourner en arrière. Fait que là, j'ai décidé de revenir à Montréal. Je coupe des bouts, mais je revenais à Montréal. Puis là, j'étais décidé d'aller passer à la maison du père. Mais la première nuit, j'ai préféré aller coucher dans un petit hôtel à Montréal. Il me restait le peu d'argent qui me restait. Là. Puis là, j'ai appelé un ami. Tu sais. La première fois, j'étais allé tout seul à la maison du père, mais il m'a refusé. Parce que j'étais arrivé avec des bagages, je me venais bien. Tu sais comment on pète asti. Aujourd'hui, j'en ris, tu sais, parce que j'ai mis ça, t'es bien toujours bien. Hey, aujourd'hui, là. La maison du père m'avait refusé. Tu sais, fait que là, je suis parti de la queue entre les jambes, puis tu sais, bon. Là, je me suis rappelé cet ami-là que je te parlais, là, Jocelyn, qui s'appelle, je l'ai appelé. Je suis allé coucher chez lui ce soir-là, il y avait des amis avec lui, puis le lendemain, il m'a accompagné à la maison du père, puis c'est là que ça a commencé. Ils m'ont accepté en thérapie, tu sais, j'ai fait l'accueil, j'ai fait beaucoup de bénévolat, tu sais, ça m'a sauvé, ça. Parce qu'au lieu de rien faire, puis d'aller dehors, se promener dans les endroits que j'avais pas de place où aller, puis j'étais tellement blessé, j'avais pas le goût, tu sais, j'avais pas le goût d'aller voir des gens que je connaissais ou quoi que ce soit. Là, je m'impliquais à la cuisine, tu sais, je faisais du bénévolat, puis ça m'a aidé. Puis là, j'ai vu des gens bien plus maganés que moi, tu sais, des gens là, vraiment dans l'itinérance complète. Moi, j'étais pas encore un itinérant. J'étais un errant, mais tu sais, j'aurais pu me débrouiller pour trouver quelqu'un puis y aller, mais j'étais trop blessé pour faire ça, tu sais, j'étais pas fier de moi, là, tu sais, j'étais comme, non, j'étais honteux, puis ça. Bon. Mais la maison du père, ça m'a ouvert les yeux, là, tu sais, ils m'ont accepté, puis... Je me souviens que les premiers temps, les premières semaines que j'étais là, j'ai pleuré tout le temps. Pas si tu connais la maison du père, la petite chapelle, là, j'étais toujours là. Je pleurais comme une madone, encore. Je pleurais. Mais c'est le contraire. Plus je pleurais, plus je sentais comme un soulagement. Parce que j'ai toujours été un gars, mais qui est joyeux, tu sais, dans le sens, là, quand je travaillais dans l'hôtellerie, alors ça paraissait pas trop, tu sais. Je prenais un petit verre d'eau, ça paraissait moins. Mais j'ai travaillé quand même pendant toutes ces années de fou-là. Là, j'arrivais quand même à me placer les pieds à des bons endroits. T'sais, j'étais débrouillard quand même, malgré toutes mes peurs. Là. J'étais quand même fonceur quelque part. C'est ça, je pense, qui m'a sauvé. C'est ces prières-là, les prières avec ma mère. Quand je disais à ma mère que j'étais à la maison du père pour faire une thérapie, elle levait les bras en l'air en disant, ma mère fait plein de prières, tu sais. Elle dit, enfin, mes prières ont marché. Je série cette journée-là. Elle avait du sourire fendu jusqu'aux oreilles, tu sais. Elle dit, au moins un, elle dit qu'il vient d'accrocher. Bon, elle était contente, tu sais, elle était fière. Puis, tu sais, ça m'a aidé, ça, tu sais, de voir qu'elle était si contente, puis si... Fait qu'à la maison du père, j'ai fait la thérapie, on est allé sur la ferme, tu sais, avec les animaux. Ça a été une découverte pour moi extraordinaire. Parce que ça m'a rappelé un peu la Gaspésie de l'enfance, tu sais. Il y avait des montagnes pas loin, des cours d'eau, les vaches. J'avais toujours peur que les vaches me mordent les fesses quand je donnais du foin. Il arrivait en arrière. C'est gros! Ça arrivait en arrière de moi, puis j'avais toujours l'impression qu'il me mordrait une fesse, puis une méchante mordée, là. Oh my God! Hey, c'était ça, mon début. C'était ça. La ferme, là. Alors, c'est là que j'allais donner manger au cochon, puis là, quelqu'un me disait, si tu donnes à manger au cochon, pousse-toi vite, parce qu'ils vont te mordre. Mais c'était pas vrai. J'avais gorgé les graines en l'air, puis je suis parti, mon ami, sauté avec le tueur. Non, mais c'était... Ça me prenait ça, tu sais, pour m'ouvrir tranquillement, de sentir que j'étais aimé, entouré, en tout cas, entouré, puis j'acceptais cette aide-là, tu sais, c'est venu comme seul, là. Je te dis pas que j'ai presque rien compris à la thérapie, là, presque rien compris, mais le temps que j'étais là, j'étais entouré, j'ai pu parler, j'ai fait de l'ivresse mentale avec l'animateur, là. Puis je riais, je pleurais, tu sais, toutes les émotions mélangées. Tu sais, quand t'as pas vécu tes émotions pendant des années, à un moment donné, ça sort, mais c'est tout mélangé. Je pleurais, je riais, je chantais, ah, c'était l'enfer. L'enfer, mais en même temps, un début de paradis, si tu veux. Ah, que j'aimais ça, c'était une belle expérience. Et on mangeait, je continue. Je mangeais des œufs frais tous les jours. Puis la viande qu'on mangeait, mais c'était la viande fraîche, c'était la viande de la ferme. Tu sais, c'était vraiment... extraordinaire. Puis en même temps, je me posais plein de questions parce que je commençais à me réveiller, tu sais,
Merci Alain, un réveil. il me fait rire Alain, il a un bon sens de l'humour. Mais oui, je suis contente de l'entendre puis de rire. Parce qu'il faut dédramatiser, on apprend ça aussi avec les alcooliques anonymes, puisqu'on a vécu bien des drames, puis c'est une grande souffrance la consommation. Puis on se rend compte de bien des affaires, puis justement les émotions, hein, c'est une maladie aussi qui des émotions. Puis je trouve ça le fun parce qu'il nous en fait vivre des émotions, Alain, en l'écoutant. C'est comme bien le fun aussi d'entendre parler de la thérapie, puis de la ferme, là. Je sais pas si à notre époque la ferme existe encore, mais je trouve tellement que c'est le fun comme moyen de revenir à la terre et sur terre, on va dire, là. Ben, en tout cas, on va aller tout de suite à la pause pour revenir au partage d'Alain.
Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire,
j'ai fait quelque chose et ma vie a changé.
J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis.
Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes.
Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'Isabelle et son équipe.
Alors, de retour à l'émission Un jour à la fois. Alors, mes chers auditeurs, nous avons un site Internet pour notre émission de radio. Ce site est un jour à la fois, trait-d'union-émission.org. Vous pouvez aussi accéder par le site Internet de la région 87, aa87.org. Vous aurez accès à nos enregistrements sous forme de podcast pour 2020 et 2021, ainsi qu'aux archives de partage radio. Si tu veux venir partager ton histoire personnelle à l'émission, tu n'as qu'à nous écrire à l'adresse courriel disponible sur le site. Notre studio est situé au bureau des services régionaux. C'est au 3920 rue Rachel à Montréal. Et bien sûr, vous êtes les bienvenus. Moi, je suis toujours heureuse de vous avoir à l'émission et de vous entendre. Alors, aussi, là-dessus, la liste de nos radiodiffuseurs ainsi que les horaires de diffusion. Là, Alain qui nous fait rire, qui a un bon sens de l'humour, puis c'est bien le fun. C'est un beau signe de rétablissement aussi, dans ce que je crois. Il nous a invités à la ferme de la maison du père. Ben, c'est le fun, je trouve ça intéressant comme façon de se rétablir, de ramener la personne à l'essentiel, en fait, hein? Sur le terrain des vaches, comme on dit. Ben oui, ben je vais le laisser continuer. Là, il nous racontait que ça allait de mieux en mieux. Il débrumait parmi ça. Puis aussi, il y avait un entourage qui sentait une bienveillance, je dirais, envers lui. Puis ça aussi, c'était quelque chose de nouveau. Et là, ben je vais le laisser continuer. Vas-y, Alain.
Retour à la ferme. oui. Moi, j'étais chanceux parce que maintenant, ça n'existe plus, la ferme pour la maison du père, là, parce que, donc, ils ont vendu. Mais moi, j'en ai profité du moment où j'étais là. C'était dans les années 90. Ouais. Non, c'était, écoute, moi, quand je suis arrivé là, c'est comme si je revenais sur la terre en Gaspésie, tu sais, les animaux, la ferme, la montagne. Juste en face, il y avait une espèce de petit barrage pour voir. C'était magnifique. J'ai bien aimé ça. J'allais souvent au petit barrage tout seul, là, pour, tu sais, réfléchir, pour regarder les choses, comment ça allait. Mais dans cette thérapie-là, là, ça a été, je dirais pas que c'était difficile. Enfin, j'ai vu des gens plus hypothéqués que moi. Tu sais, c'était vraiment des gens de la rue, là. C'était vraiment des gars qui arrivaient de la rue, tu sais, avec leur habillement, tout ça. Puis, ça m'a permis de, j'étais heureux avec vous autres, avec eux autres. C'est bizarre, hein. Je me sentais bien, je me sentais à ma place. Tu sais, j'ai pas eu de préjugés dans le sens de dire, mais qu'est-ce que je fais là? Non, j'ai pas posé de questions. Je me suis laisser couler là-dedans, tu sais, j'ai dit, bon, ils sont là parce qu'ils ont le même problème que moi, problème de consommation et tout ça, alors j'ai dit, c'est ma place. Puis je suis pas le gars qui parlait le plus, tu vois comment je peux parler aujourd'hui, mais en thérapie, je suis pas le gars qui s'exprimait le plus. Non, parce que j'étais tellement coincé, tellement pogné, mais si je savais pas quoi dire, tu sais, quand t'as jamais parlé de tes problèmes, t'as jamais parlé de la vie que t'as passée, tu sais, tu comprends, j'étais pas le genre plaignard, moi, pour ça, là, je gardais ça pour moi, là, imagines-tu? Puis là, mais là, j'avais de la misère à sortir ça, je devais jamais sortir. Là, ça a commencé tranquillement, hein, puis mon Dieu, ça a pris du temps, tu sais. Tranquillement, là, les petites couches tombaient, les petits masques commençaient à tomber tranquillement. Il y en a une couple qui restait accrochée, tranquillement, avec le temps, ils se sont effrités, là. Puis c'est ça, je suis laissé bercer là-dedans par la thérapie, puis j'ai bien aimé ça, on a fait des meetings dans ce coin-là, Thetford Mine, puis d'Israélie, c'est vraiment un beau petit coin. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Puis dans les 11 qu'on était, il y en a 10 qui ont fait une rechute en même thérapie. Là. Ils sortaient du meeting pour aller dans les bars, ils s'en ont rendu compte. Puis ils m'ont dit une journée, Annette, t'es le seul qui a pas... Puis j'ai pas pris ça comme un... J'ai pris ça plutôt comme un défi. T'sais, j'ai dit, ah, mais regarde, mais moi, je vais continuer. T'sais, ça m'a donné comme un défi, puis en même temps, ça me faisait de la peine pour eux, parce qu'il y en a, je m'étais attaché. T'sais, on partageait, puis tout ça. En tout cas, c'est pour dire, hein, on sait pas comment qu'on va être choisi, hein. Là, il y a un chapeau, il y a un grand chapeau, là. Puis il y a des noms dedans, puis il y a un nom qui sort, tu sais. C'est le tien, mais là, profite-en. Prends-le prends-le ton départ, là, essaye, là. Moi, c'est comme ça, j'ai vu ça, tu sais, et voilà. Fait qu'après la thérapie, c'est sûr, là, quoi, j'ai pleuré là-bas aussi. Je suis arrivé à la maison du père. Je passais encore 2 mois à la maison du père. Mais moi, pour m'aider, je faisais du bénévolat. Tu sais, j'étais à la cuisine. Ah, j'aimais ça. Tu sais, j'aimais ça m'occuper des autres. J'aimais ça débarrasser les tables, les itinérants qui ne pouvaient pas le faire. Tu sais, j'avais pas. Ça m'a comme permis de voir la vie d'une façon plus simple. J'étais pas malheureux parmi ces gens-là, du tout, du tout. Je me sentais à ma place, avec eux autres, à souffrir avec eux autres en silence, mais tranquillement, tranquillement. Pour te donner un exemple, j'étais pas guéri du tout, là. C'est long, ça, c'est toute la vie. Quand il y en a un moment donné qui me taquine, qui me lance une cuillère. Je dis, bon, une cuillère, c'est pas assez. J'ai garoché le bac de cuillère au complet. Il dit, vas-tu comprendre? Dans ma façon de faire, c'était comme, dérange-moi pas, je te dérangerai pas. Mais c'était un coup que j'estimais bien, là. J'ai gorgé le bec de cuillère. Imagine, tu veux dire, t'as pas fité mon affaire tout le temps. Mais quand je faisais mon bénévolat cuisine, j'aimais ça. Je garochais rien. J'avais de la vaisselle, les chaudrons. Ça m'a aidé, tabarnak. Ça m'a aidé, tu sais, tranquillement à m'apaiser, puis à être capable de voir que je peux vivre avec des gens, puis je peux travailler. Mais j'ai toujours eu un côté travailleur, tu sais. Pendant que je me gelais souvent, je travaillais dans l'hôtellerie, alors. Puis des belles places, là. Je savais me faufiler, tu sais, j'étais tabarnak. C'est ma mère qui m'a donné ce cadeau-là d'être capable de me faufiler de même. Puis... Et voilà, on est revenu en ville, c'est sûr. Hein? On passe pas la vie sur la ferme. Je suis revenu en ville face à une autre réalité. Puis c'est là que j'ai commencé à voir des choses, c'est des défauts que je pouvais avoir. C'est là que j'ai commencé à identifier certains problèmes. Puis même encore aujourd'hui, je me visite un peu, tu sais, l'introspection, puis je regarde le passé, je me dis, pas que j'essaie de comprendre, c'est de se pardonner, tu sais, j'ai pardonné, mais juste pour voir, tu sais, comment j'étais, c'est bon, moi j'aime bien faire ce genre d'exercice-là, mais c'est pas ma justice, là, tu sais, au contraire, aujourd'hui j'en ris, tu sais, je suis capable de rire des situations qu'avant je pleurais, là, tu sais, l'autodérision, c'est ça qu'un homme amène avec le temps, d'être capable de rire de soi. Je pense qu'il est important, c'est de s'aimer d'abord un peu. Tu sais, si tu t'aimes pas, tu peux pas aimer les autres, tu peux pas les accueillir comme tu veux. Hein? Tu vas les accueillir de la manière que tu te vois toi-même. Si tu te perçois mal, tu te respectes pas, mais je pense pas que tu vas respecter la personne en face de toi, tu sais, d'après moi, là. Ça, c'était un long cheminage après ça, même dernièrement, je te dirais. Je fais beaucoup d'introspection à ce niveau-là. Puis, je suis chanceux, je rencontre plein de gens, tu sais, qui sont dans les A. J'ai eu la chance même, oh mon Dieu, j'étais chanceux, des gens qui m'ont guidé. Tu sais, les espèces de guides spirituels qu'on pourrait appeler, là. Il y a eu le père Langlais. Je travaillais pour les pères de Sainte-Croix, parce qu'à un moment donné, moi, je travaillais dans les bars, de l'hôtellerie. Puis quand j'ai arrêté j'ai perdu la soif. J'ai vraiment perdu la soif, tu sais. C'est pas moi qui ai choisi, là. Je l'ai perdu. Mais après, il a fallu que je prenne des initiatives, tu sais. Je disais, Alain, je me parlais, tu peux pas rester dans les bars si tu vois plus. Qu'est-ce que tu vas faire là? Tu te saoulais plus qu'eux autres. Fait que j'ai pris le hasard. J'étais allé à la maison du père une journée. Parce qu'on était sortis à un moment donné, là. En tout cas, j'en vais revenir là-dessus. Des fois, j'ai tellement à dire, dans le fond. C'est vrai, c'est quand même beaucoup d'années. Puis, oh my God, man. Ça dire que c'est le temps de respirer un petit peu. Je reviens. Non, mais c'est bon d'avoir des petits silences parfois comme ça. C'est normal. Puis d'être capable de le respecter, son silence, c'est quelque chose, vous savez. Avant, j'avais peur du silence. Moi, quand c'était trop silencieux, ça prenait du bruit. Puis aujourd'hui, c'est le contraire. J'aime plus. Je sais pas si c'est l'effet de vieillir aussi, mais on aime plus la tranquillité. Tu sais, on s'entoure moins de gens toxiques ou de gens qui peuvent nous rendre malheureux. Bien souvent, c'est des mauvais choix qu'on fait. Tu sais, les gens sont corrects, c'est nous qui faisons des mauvais choix. Bon, où en étais-je? Et voilà. Fait que j'ai eu des bons guides spirituels, comme le père Langlais, qui m'a beaucoup aidé. Ah, mon Dieu, lui, là, disait Alain, le bon Dieu demande pas être parfait, Alain, il demande pas être tu seras jamais un ange, Alain, là, oublie ça, là. Il me parlait franchement, tu sais. Puis il me disait tout le temps, il dit, tu sais, la perfection, on l'atteindra jamais. Il dit, même moi, je suis curieux, puis j'atteindrai jamais. Il y a juste Dieu qui peut atteindre ça, tu sais. Mais toi, quand il me disait tendre vers la perfection, il voulait me dire, améliore-toi. Il y a toujours de la place pour l'amélioration. C'est ça qu'il voulait me dire. Fait que j'étais chanceux d'avoir ces gens-là qui m'ont guidé, tu sais. Puis comme je travaillais avec les personnes âgées, 30 ans comme préposé bénéficiaire quand même, il faut le faire. Puis j'ai toujours aimé ça. Moi, je faisais danser les madames, j'étais un vrai fou, tu sais, mais agent. Ça m'a aidé à dramatiser la vie pas mal. Ah, j'ai toujours aimé ça. J'ai travaillé avec des gens, avec les personnes âgées, puis... Ça a commencé avec les pères de Sainte-Croix, mais j'ai passé 15 belles années, là. Puis le père Langlais, il avait reçu l'ordre du Canada à un moment donné, mais ça se faisait à Québec. Fait qu'il m'a invité pour me coucher au château Frontenac. Moi, qui n'avais jamais couché là de ma vie. Tu sais, c'était quand même un beau cadeau qu'il me faisait, cette journée-là, là. Il dit, Alain, je veux que c'est toi qui viennes avec moi, là. Tu m'as aidé beaucoup. Il m'a écrit une lettre une journée. Écoute, une lettre, là. Tu sais, une lettre de courage, tu sais. Il m'avait dit, parce que moi, il y avait eu à un moment donné un problème de santé, puis il ne voulait plus marcher. Mais moi, j'arrivais, là, puis je fermais son ordinateur. Tu fais l'anglais, attelez votre marchette, on s'en va marcher. Puis il venait marcher. Puis il m'avait envoyé une lettre à un moment donné disant que j'avais sauvé la vie. Il faut sauver la vie. Je l'ai juste stimulé, tu sais. C'était ma job. C'est facile de stimuler les gens. Et voilà. Fait que c'est ça. Tranquillement, j'ai appris à cheminer puis à avancer tranquillement. Ben, je te dis pas que j'ai pas eu des misères, là. On a des misères aussi, tu sais. Des périodes de souffrance, des périodes de doute. Mais tu sais, douter, ça ne veut pas dire, qu'on doute de Dieu, c'est pas un péché, tu sais. C'est normal. C'est normal. On demande à approfondir sa foi ou sa vie spirituelle. Je sais que c'est pas, je suis pas une affaire de religion, là, tu sais, parce que moi, je vais pas à l'église, mais j'ai rien contre. Mais moi, j'aime mieux la foi simple. Tu sais, j'aime beaucoup. Or, pour ça, là, c'est un Dieu tel que tu le conçois. Tu sais, tu te casses pas à la basique avec ça, là. C'est comme ça. Moi, c'était plutôt le Dieu de mon enfance, ma mère, là, qui priait tout le temps. Pauvre maman, je te dis qu'elle a eu de la misère avec moi. Chaque fois que je sortais de prison, c'est elle qui m'accueillait. Chaque fois. Puis la journée où tu sais, je vous ai compté, j'ai pris une fuite pour Québec, là. Ça a été là ma libération. C'est là que le début de la libération s'est fait. Je ne comptais plus sur maman. Je ne comptais plus sur le besoin d'être toujours chez eux parce que je me savais en sécurité. Tu comprends? Mais c'était pas une saine sécurité. Tu comprends? Pour moi. Fait que c'est en faisant cette fuite-là à Québec, mais ça m'a comme libéré de ça, tu sais, ce poids que je me faisais vivre.
Je comprends, Alain, c'est comme si le cordon venait de se couper. C'est comme, moi, c'était toujours là pour te ramasser, ah ouais. Tout le temps là. Souvent on dit aux personnes qui aident des alcooliques ou qui sont souvent autour là, de les laisser aller pour qu'ils frappent leur bas-fond, tu sais. C'est pas facile à faire pour quelqu'un qui a le cœur sur la main, là. Puis sûrement que ta mère, je l'entends qu'elle est comme ça, là. Une bonne... je pense que t'as eu une bonne maman... qui était dans la foi. C'est ça. Fait, en tout cas, le retour à la ville, le retour à la vraie vie, hein, c'est comme toujours un défi quand on sort de thérapie. Toi, tu nous l'as expliqué là, quand même, un cheminement qui se fait par toi-même. En tout cas, on va aller à la pause parce qu'il nous reste encore un segment à t'entendre puis peut-être que tu vas pouvoir nous parler davantage de tes étapes. Alors, merci. Alors, on va tout de suite à la pause. Là.
Je me sentais seule, angoissée, agressive. Et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidée à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur AA.org.
Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe.
Alors, de retour à l'émission Un jour à la fois, avec une petite toux d'Alain au passage. Alors, si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, je vous invite à consulter le site officiel des alcooliques anonymes du Québec sur aa-québec.org. Ce site contient une foule d'informations sur cette grande fraternité. Par exemple, si vous ressentez le besoin de parler, le numéro de la ligne d'aide téléphonique de ta région s'y trouve. Alors, la liste des réunions aussi à travers le Québec est affichée à cet endroit. Et avec la pandémie, on a les plateformes Zoom, on a aussi des réunions qui s'appellent Au bout du fil, qui sont téléphoniques. N'hésitez surtout pas à vous servir de ces beaux outils-là. Et on va retrouver notre invité Alain. C'est bien agréable. Alors, là, il est en train de nous raconter aussi la relation avec sa mère. Hein. Sa mère a l'air d'être une femme qui en a beaucoup pris sur ses épaules avec 12 enfants, imaginez-vous, dont beaucoup avec des problèmes de consommation. Donc, Alain lui parlait de lui par rapport à sa maman, puis comment aussi partir à Québec, puis tout a commencé là. Mais là aussi, il est rendu qu'il a perdu la soif et l'obsession, hein, l'obsession de consommer, l'obsession de boire... par l'entremise du mode de vie, de la thérapie. Puis j'ai bien hâte d'entendre aussi son cheminement, parce que je pense qu'il y a un grand cheminement. Alors vas-y, mon cher Alain.
Hello, Alain encore là. Mais c'est ça. Passé par la maison du père, j'ai quitté la maison du père à un moment donné, tu sais, pour. Mais j'ai tout trouvé à la maison du père. Hein. À un moment donné, je suis allé dans un meeting, puis je cherchais un emploi. Puis je voulais pas retourner dans l'hôtellerie, comme je te disais tantôt. Puis là, il y en a un qui est Serge. Il est décédé d'un cancer, mais c'était un homme qui était désagréable avec tout le monde, mais moi, je le trouvais. Je trouvais qu'il y avait quelque chose, tu sais. Non, mais il était vraiment pas gentil des fois, là. En tout cas, j'étais allé à cette réunion-là, j'ai commencé à y parler. Mais il dit, Alain, dis-moi, je suis sur un projet, si ça te tente, c'est à faire des ménages à domicile. Ça a commencé comme ça. Fait, j'étais allé, puis j'ai fait les ménages à domicile pendant peut-être quelques mois. Puis après, il offrait une possibilité de faire d'avoir une formation. Puis moi, au hasard, j'ai dit, mais Colin, j'aime le monde. Non, mais j'ai pris préposé bénéficiaire. Je suis allé faire la formation. La formation, je l'ai trouvée ennuyante. C'était long, puis il faisait chaud. J'ai trouvé ça très ennuyant. Mais quand j'ai fait le stage à Jean de la Lande, c'était vraiment des cas lourds d'Alzheimer et tout ça. Puis là, j'arrive, puis c'est mon premier monsieur, mon premier patient. Là, il se réveille. Il dit bonjour. Là, je savais son prénom, c'était marqué bonjour, monsieur. Bon, tel. Puis là, il me compte son voyage. Ah, vous avez fait un voyage cette nuit. Où vous avez été? Puis là, je dis, j'ai commencé la relation de même, mais pendant que je parlais de voyage et tout ça, je le déshabillais tranquillement pour le laver, tu sais, je faisais ma job en même temps. Puis à la fin du compte, ça a été comme ça, j'ai eu le coup de foudre. J'ai eu le coup de foudre demain. J'ai aimé tout de suite ce genre de relation-là. J'ai toujours aimé travailler avec les gens, tu sais, qui avaient des difficultés, puis qui avaient des limites, tu sais, comme les Alzheimer, Parkinson. J'ai connu à peu près toutes les maladies là-dedans. Mais j'étais heureux dans ce travail-là. C'est quelque chose, hein? Pas là pour le salaire du tout, là. J'étais là vraiment. J'étais quand même bien, là. Mais c'est d'être en contact avec ces gens-là. Puis je me lançais toujours des défis d'aller chercher les plus difficiles. Tu sais, les gens qui avaient le plus de misère, plus tout seul. Vous voulez, madame? Là, j'allais chanter des vieilles chansons de Michel Louvain, imagine. J'ai pas la voix de Michel Louvain, là. Mais les madames adoraient ça, je te jure. Là. J'ai développé, là, une espèce de fantaisie, là, tu sais. Puis les premiers, la première place où j'ai, OK, ça, c'est les pères. Les pères, on va rester avec les pères de Saint-Croix pour tout de suite. Mais là, j'ai fait un beau cheminement. Tu sais, c'est les aider, puis écoute, j'ai lavé des morts, des gens qui étaient morts dans leur fauteuil devant la télévision. Il fallait le lever, tu sais, le sortir de là, puis le laver, puis le... Puis c'est pas vrai que les gens se vident complètement, là. Moi, j'étais témoin de ça. Ils se vident pas tant que ça. Un petit pet, mais il puait. Ça faisait 2-3 jours, je pense, qu'il était mort. Mais c'est quelqu'un qu'on n'avait pas à s'occuper. Tu sais, il était indépendant et tout ça. Il a commencé à être gris, vert, tu sais, en tout cas, une odeur épouvantable. Mais ça ne m'a pas éloigné du travail pour autant. Tu sais. Au contraire, j'ai dit, j'étais avec mon ami Christian. Je pense qu'il travaille encore là, où il a pris sa retraite. On l'avait pris, on l'avait installé dans son lit pour le déraidir. Là, tu sais, mais on a pris soin de lui, tu sais. Même dans la mort, on a pris soin de lui. On lui a touché la bouche parce qu'il y a une odeur épouvantable, là. Je sais pas si tu le sais. Puis, non, j'ai aimé ça, tu sais. J'étais bien là-dedans, moi, d'aider les gens, puis de voir qu'on avait fait quelque chose pour lui. Même à la fin de ses jours, on a pris soin de bien le nettoyer, tu sais, puis tout ça. Puis, on est sorti de la chambre, moi, puis Christian, puis on s'est dit, Colin, qu'on est privilégié de voir à s'occuper de gens. Tu sais, le monsieur était laissé à lui seul, là. Tu sais, la solitude, elle existe partout, hein. Même chez les prêtres, n'importe où, il y a de la solitude. Puis lui, mais il sortait pas beaucoup, puis c'est pas quelqu'un qui s'exprimait énormément. Puis c'est là que j'ai développé une espèce de goût après d'aller plus loin dans la relation avec les gens, tu sais, d'emmener un peu de fantaisie. Alors moi, ça moi, à juste un jour, là, c'était vraiment spécial. J'ai appris beaucoup, là. J'ai appris énormément. Pas parce que c'est des religieux, c'est des humains comme toi puis moi qui ont leurs défaillances, qui ont leurs rangs, les défauts. C'est pas des saints, hein? On n'est pas des saints non plus. Mais j'ai appris beaucoup avec ces gens-là. Le père d'Anglais, comme je t'ai conté tantôt, lui, on faisait de la marche. Je le faisais marcher, moi. Il voulait pas. Ah oui! Sors de ton... Lui, t'as sur Internet. Il écrit des livres. Même jusqu'à la fin de ses jours, il est mort à 88 ans, puis il a eu le temps de finir son 1e livre. Imagine. C'est quelque chose, mais très intellectuel. Tu sais, j'ai pas tout lu, là. C'était très intellectuel, mais d'une simplicité, il accueillait tout le monde, que ce soit un juif, il recevait un vieux juif, mais super sympathique, il recevait toutes sortes de monde, tu sais, des vieux couples, des gens de toutes les races inimaginables, ils rentraient chez eux. Mais lui, il avait fondé le centre multiculturaliste à Montréal, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, là. Mais tous les gens de toutes les races vont là, se rassemblent, se parlent, partagent. Fait que c'est un homme, tu sais, je suis pas tombé sur n'importe qui, là. C'est vraiment un homme, mais simple. Le langage du cœur, tu sais, il était pas là, lui, pour te dire, fais ci, fais ça. Il me suggérait des choses, puis je le prenais. Des fois, Il était sévère. Tu sais, il disait, Alain, le frère, t'as fait ton fraîchis ou quoi ça. Tu sais, il était capable de me le dire. Je l'appréciais parce qu'il me le disait. Puis un autre, un père, là, tu sais, je parlais des fois, je sacrais un petit peu, là. Le père, ah, ils m'ont corrigé, hein. Je me suis fait corriger, là. Il dit, Père Gladue, si je dis des mots qui n'ont pas de bon sens, vous me le dites. Mais il se gênait pas pour me le dire. Mais c'est vrai, c'était ça, ma job. C'est une espèce de contact comme ça. Tu sais, puis j'étais très ouvert. Moi, j'étais pas le gars, le borné, tu sais, bon. Tu sais, j'avais du vécu en arrière, quand même, tu croches, là. Mais ça m'a servi, là, mon travail. Bon, j'ai travaillé 15 ans pour eux autres, quand même. 15 ans. Puis à un moment donné, moi, c'est à travers le travail que j'ai grandi. Le travail m'a sauvé la vie aussi. Là, j'ai dit, bon, les prêtres, moi, j'ai besoin d'autre chose. J'étais allé pour les changements de sexe. J'étais allé là pendant 5 ans, des hommes qui deviennent des femmes, des hommes et tout ça. 5 belles années, là, d'une belle expérience de vie. C'est là que j'ai appris à mettre de l'humour dans la vie, tu sais, à mettre, tu sais, de se montrer tel qu'on est, tu sais, de pas forcer, à se mettre, tu sais, des masques. Oh, moi, je suis, non, tu sais, se montrer comme on est. Tu sais, si on est bien, puis si on aime les gens, allons vers les gens. Mais s'il y en a qui sont toxiques ou tu vois qu'il n'y a rien à faire, tu t'en vas, tu sais, c'est tout. C'est ça que j'apprends, puis j'apprends encore ça aujourd'hui, là. T'sais. Fait c'était une belle expérience au niveau spirituel avec les pères de Sainte-Croix. Après, ben là, le changement de sexe. J'étais allé un an pour les gens qui avaient le sida. Toi, j'étais attiré toujours vers les gens qui avaient vraiment besoin. C'est-à-dire, j'aimais ça, mais il y avait beaucoup de drague. Enfin, j'ai pas aimé ça parce qu'ils prenaient le médicament, mais ça annulait tout l'effet du médicament. J'ai lâché ça. Puis j'ai fini ça dans un CHSLD. Là, c'était l'amour. Les belles madames, là, je chantais les petites chansons. C'est là que j'ai mis le. Écoute, j'arrivais à l'homme. Tu sais, on avait 40 jours de stage. Je sais pas pourquoi je chantais cette chanson-là. Mais chaque fois que j'arrivais sur un étage, je chantais, c'est quoi déjà la chanson, là? Oh, happy day! Tous les jours de mon stage, pendant 41 jours, à chaque étage que j'arrivais, qu'il soit de bonne heure le matin, là, moi, je me regardais avec des grands yeux, tu sais. Je chantais happy day à chaque fois. Pas au complet, là, parce que là, il m'aurait poussé dehors. Mais les petits bouts. J'ai toujours fait ça pendant 41 jours. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais moi, ça m'a aidé. Là, je faisais danser les madames, tu sais. Ah, j'aimais ça. Moi, j'aimais ça, le travail pour ça. J'allais partager avec des madames. Une madame qui aimait, mettons, ouais. Attends là-bas, toi. Maudit bouchon. Je taponnais du bouchon. Excusez-moi pour les petits bruits, là. Ah là là. Puis c'est ça. Tu sais, moi, j'ai évolué beaucoup dans le travail. C'est le travail qui m'a fait vraiment cheminer. Pourquoi j'ai pris préposé? Parce que c'est le coup de foudre du début que je vous ai conté. Puis là, à Saint-Georges, bien là, côté madame, moi, je leur donnais des bains. Je chantais les chansons de Michel Louvain, imagine. Qui est le bel inconnu? La femme en bleu, seule à sa table. La madame était toute contente. Elle dit, oh mon Dieu, Michel Louvain! Mais, tu sais, je faisais ça souvent, tu sais, je dansais. Il y a une autre madame, elle aimait, comment qu'il s'appelle, là? En tout cas, un chanteur du temps. Bon, ah, c'est Béco. Fait que je mettais ça au bout dans sa chambre. Bon, on chantait du Béco. J'ai toujours du plaisir comme ça, tu sais. Le travail que j'ai fait, ça m'a amené ce que je suis aujourd'hui, tu sais, cette espèce de petite folie, là, tu sais, d'être capable d'aller plus loin que juste sur le bout de son nez, là. Puis de prendre soin des autres. Le moment où j'ai été le plus heureux dans ma vie, c'est quand je prenais soin des autres. Je m'en allais encore taponner, là. Mais tu sais, j'ai remarqué ça. C'est quand je prenais soin des autres, que j'allais vers les autres pour les aider, mais sans attente. C'est là que j'étais le plus heureux. Tu vois? Alors c'est ça. C'est de s'occuper des autres aussi. Prendre soin des autres, ne pas se regarder son petit nombril. C'est d'apprendre à rire de soi, de mettre de l'autodérision. Ça vient avec le temps. Puis le pardon, comme tu te disais tantôt, le pendant le disait, ça ne se fait pas sur le bout des dents, c'est une question de temps. Tu sais, il faut regarder ça dans le bon sens. Puis quand je passe une difficulté dans la vie, les amis, ceux qui parlent, qui sont à la radio actuellement, là, moi, ce que je fais, quand je suis en période de doute, tu sais, où je me pose des questions, il y a une phrase que j'ai sortie depuis un an, là, je la répète, « Alain, tu es en mode apprentissage ». Aussitôt que je dis ça, c'est comme « Ah, OK, OK ». Mais là, ça fait 31 ans et quelques mois que je suis dans les A. Et je vous dirais, ceux qui doutent, qui ont peur et qui n'ont pas confiance, ça vaut la peine. Donnez-vous la peine là, de vous prendre en main puis d'apprendre à vous aimer puis à vous accepter comme vous êtes. Puis la prière de sérénité dit tout. Hein? Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence.
Merci Alain. Une belle façon de terminer ton partage. J'ai beaucoup apprécié de t'entendre, puis ça m'a fait comme beaucoup de joie, moi aussi, c'est ça que ça m'a donné. Et puis, je tiens à remercier tous les participants aussi, nos auditeurs, bien sûr, Richard à la console, l'équipe au complet, les collaborateurs, les radiodiffuseurs, et ici, je me présente encore, Isabelle, votre animatrice. J'ai bien hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Bonne semaine, tout le monde.